Bonjour à tous. Ça fait tout drôle d'être là. Je vois, malgré les masques, beaucoup, beaucoup, beaucoup de visages connus. Je vois de nouveaux visages aussi. Je vois aussi quelques visages qui manquent. Mais c'est très, très, très bon d'être parmi vous, dans cette église dans laquelle j'ai grandi. Ça fait vraiment tout drôle. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais ici en train de prêcher, de vous parler d'Adra. Et voilà, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et veuillez m'excuser si je ne me souviens pas de tous les noms, de tous les prénoms, mais je me souviens bien de vos visages. Ce matin, comme il a déjà été dit, je suis là avec mon époux, Jacques et nos enfants, Thomas que vous avez vu, Maëva et le petit Timothée. Et nous sommes rentrés en Suisse depuis le mois de janvier. On était arrivés du Togo en août de l'année passée. On est resté un petit moment en France et puis ensuite on a déménagé. Donc maintenant nous sommes officiellement en Suisse pour on ne sait pas combien de temps, on verra, selon la volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous parler de notre responsabilité sociale en tant que chrétien. Sur la photo, je pense que vous pouvez reconnaître quelques personnes, dont Michael Crichton. Michael, c'est l'auteur des films Jurassic Park. Vous connaissez sûrement. Mais il n'a pas fait que ça. Michael, il a aussi écrit des livres de voyage. Et dans un des livres, il raconte une histoire qu'il a vécue au Bhoutan. Alors comme vous voyez, Michael, c'est le plus grand. Il est vraiment très grand. Et il est allé visiter un tout petit village là-bas et il portait un parka orange. Et donc dès qu'il s'est approché de l'entrée du village, les villageois sont sortis en joie. Ils ont fait une fête. Tu es revenu, c'est magnifique, c'est tellement bon de te revoir. Oh merci, tu es revenu. Et lui, il était très étonné. Mais on se connaît. Mais oui, tu étais venu l'année passée, tu nous as promis de revenir, tu as tenu parole. C'est fantastique, on est très heureux de te revoir. Il dit non, mais vous faites l'erreur. On se connaît pas, c'est la première fois que je viens au Bhoutan. Non, non, c'est pas possible, tu te souviens pas. Attends, on a des photos pour toi. Et donc, ils ont sorti des photos. Et sur les photos, il y avait un tout petit monsieur japonais avec un parka orange. Vous voyez, dans ce village au Bhoutan, les gens voyaient le monde à travers les couleurs et non pas à travers la taille ou la forme physique. C'est important de toujours maintenir ça dans notre tête, que les gens voient toujours les choses selon leurs propres lunettes culturelles. Si nous allons en Ukraine, et ceux qui y sont déjà allés ont sûrement vu ce monument. C'est un monument qui a été érigé à la gloire du rôle de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous discutez avec certains Ukrainiens, vous allez voir qu'ils ignorent totalement que le Royaume-Uni ou le Canada ou les États-Unis ont pris part à la délivrance de l'Europe. Mais si vous allez aux États-Unis et vous discutez avec certaines personnes, vous allez voir qu'eux, ils ignorent totalement que l'Union soviétique a aussi pris part à la libération de l'Europe. Encore une fois, les gens voient les choses selon leur perspective, avec des lunettes différentes. Et pour certaines personnes, eh ben Dieu, il ressemble à du pain. Il ressemble à un verre d'eau. Ou peut-être qu'il ressemble à des colis alimentaires. Ou un plat chaud servi les dimanches. À une école. Pour certaines personnes, Dieu est uniquement visible à travers des actes d'amour, des actes humanitaires, des actes sociaux. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que Dieu nous demande de maintenir dans notre tête quand nous voulons agir. Nous devons montrer Dieu au monde d'une façon à ce que les gens puissent le voir. Vous savez, quand un professeur, quand un enseignant donne une instruction, donne une consigne pour que ses élèves puissent faire un travail, il donne toujours la consigne et puis il va donner des explications. Ben Dieu aussi, Dieu nous a donné une consigne, il nous a donné une mission. Et on peut la lire ici dans Matthieu 19, 20. Matthieu, verset 19 à 20. Il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la consigne. C'est notre consigne. Mais maintenant, nous devons comprendre cette consigne, nous devons comprendre cette mission. Et Jésus nous donne plus d'explications. Il nous montre comment mettre cela en pratique. On peut le voir dans Marc 1, 32 à 34. On voit ici Jésus en action. Le soir venu, verset 32, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons. Nous pouvons voir encore plus d'explications dans Matthieu 25, 34 à 36. Il nous explique ici avec précision comment nous devons travailler. Mais permettez-moi de lire ce texte d'abord dans la version traduction du 21e siècle. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car je n'étais pas connu. » Et vous avez conçu un excellent programme de relations publiques. Vous avez publié de magnifiques brochures. Vous avez tenu de grandes campagnes d'évangélisation par satellite. Vous avez donné de nombreuses conférences. Vous avez tenu, chaque semaine, un groupe de foyers. Vous avez donné de nombreuses études bibliques. Est-ce que c'est ce que vous avez dans vos Bibles? Je ne pense pas, non. On va changer de version. Lisons dans Louis II, Matthieu 25, 34 à 36. On va commencer directement au verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Quel rapport y a-t-il avec les campagnes d'évangélisation? Que regardent les gens? De quoi parlent-ils le plus longtemps? Qu'est-ce qui reste le mieux dans votre mémoire? Les bonnes paroles ou les bonnes actions? Changeons de décor. Nous nous retrouvons maintenant avec Jean-Baptiste, qui est en prison. Il est découragé, il doute de tout. Et il décide alors d'envoyer ses disciples pour questionner Jésus et savoir si vraiment Jésus est le Messie. Voilà ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11, 2 à 5. Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne parole est annoncée aux pauvres. » Si je vous proposais une petite expérience ce matin, on sortirait tous dans les rues et on demanderait aux passants, on leur poserait une question. Est-ce que vous connaissez l'Église adventiste du septième jour? Quelle serait la réponse? Et si maintenant on leur demande, est-ce que vous connaissez l'armée du salut? Quelle serait la réponse? Si on leur demande, est-ce que vous connaissez ADRA? Quelle serait la réponse? Alors, tout va dépendre du lieu où on serait. Vous voyez, ADRA, elle est connue là où elle réalise des activités, là où elle réalise des projets. Ici, vous voyez sur la photo une réunion typique d'un groupe ADRA. Et le président d'ADRA International a eu l'opportunité de visiter un groupe comme ça et de discuter avec ces gens. Et il était au Nicaragua. Et à côté de lui, il y avait une dame avec deux enfants, un enfant plus âgé et un petit nouveau-né. Et puis, elle lui dit, « Oh, président, je suis tellement contente de vous connaître. Vous savez, je veux vous présenter mon bébé. » Ah, très bien, très bien. Et comment il s'appelle? Ah, mon bébé, il s'appelle ADRA. ADRA? Mais pourquoi ADRA? Eh bien, elle a raconté son histoire. Son fils aîné souffrait de malnutrition. Malnutrition sévère. Et il avait été pris en charge par un groupe ADRA. Et c'est au sein du groupe qu'elle avait pu avoir donc cette aide pour pouvoir soigner son enfant. Et il a été soigné, il a été guéri. Et donc, elle avait fait cette promesse que si elle avait encore la joie d'avoir un autre enfant, elle lui donnerait le nom de ADRA, en honneur à ADRA. Ici, vous me voyez avec des enfants d'un centre d'enfants que nous avons à Hortolândia. J'ai eu l'opportunité de travailler avec ADRA au Brésil, où on était en train de gérer 7 centres d'enfants. Ce sont des centres qui accueillent des enfants en horaire contrascolaire. Et souvent, ils sont implantés dans des favelas, des bidonvilles. Alors, je pense que vous connaissez favelas, bidonvilles. Si vous visitez le Brésil, je vous conseille de ne pas vous aventurer dans les bidonvilles. C'est dangereux. C'est sincèrement, vraiment, il ne faut pas y aller sans autorisation. Et puis, à Hortolândia, nous avons donc ce centre. Et ce centre accueillait tous les enfants de la favela. Y inclut les enfants des dirigeants des favelas. Et ces dirigeants-là avaient donné un ordre à toute la population. C'était que si quelqu'un se déplace dans la favela en portant l'uniforme ADRA, il faut le protéger. ADRA est connu jusqu'à aujourd'hui dans cette favela. En Guinée-Bissau, au Togo, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler là-bas et vous connaissez peut-être les véhicules d'ADRA, on a des gros véhicules à cause de l'état des routes et sur les véhicules, donc on a les logos ADRA et dès qu'on passe dans un village, les enfants sortent et crient ADRA, 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 ils sont ravis de nous voir. Et quand on vient visiter un groupe, c'est toujours la fête. ADRA est très, très accueilli. Et dans un des villages, le village d'Adetikopé, j'ai eu l'opportunité de connaître Maman Yawa, que vous voyez ici. Maman Yawa, elle a étudié jusqu'en troisième primaire. Armos 5, je crois. Je ne sais pas si vous utilisez Armos ici. Troisième primaire. Donc, elle savait lire, écrire, compter, et voilà, ça s'est arrêté là. Et puis ensuite, elle a repris des activités champêtres avec sa famille. Elle a grandi et puis elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, puis elle-même, elle avait son champ et elle vivait dans ce village d'Adetikopé. Et elle n'avait pas du temps ou pas d'intérêt à investir dans l'éducation de ses enfants. Tout ce qu'il fallait, c'est juste, voilà, on plante, on mange et on vit au jour le jour. Et puis elle a rejoint un des groupes Adra du village. Et dans ce groupe, c'était plusieurs femmes qui se sont unies pour pouvoir faire des cultures, pouvoir planter des champs de maïs, d'igname, etc. Et ensemble, elles commercialisaient donc leurs récoltes au marché. Mais la majorité de ces femmes ne savaient ni lire ni écrire. Alors, quand vous plantez, vous faites votre cueillette, vous allez vendre au marché, vous avez eu de l'argent. Comment calculer si vous avez gagné, si vous avez des bénéfices ou si vous avez des pertes, si vous ne savez pas lire et écrire? Comment avoir un contrôle? Comment savoir s'il faut augmenter ou pas la production? C'était compliqué. Et ces femmes nous ont demandé alors de leur apprendre à lire et à écrire. Et nous avons donc créé un programme d'alphabétisation fonctionnelle pour ces femmes. Et maman Yawa, elle nous a dit, mais moi je sais lire et écrire. Ah ben c'est parfait! Donc on l'a formée et elle est devenue leur enseignante. Elle est devenue l'enseignante de ce groupe Adra. Amen, oui. Et aujourd'hui, elle enseigne à peu près 30 femmes par classe. Ça prend 8 mois pour qu'une femme puisse savoir lire, écrire et faire la comptabilité de base. Et en plus de ça, elle s'est dit, bon, j'aide mes sœurs, mais pourquoi pas prendre soin de mes enfants? Et donc, elle a suivi l'éducation de ses enfants. Elle a commencé à être rigoureuse dans les devoirs, dans qu'est-ce que tu as étudié ce matin à l'école, à suivre ça. Et la dernière fois que j'ai pu les rencontrer, son fils aîné me racontait que son rêve était de poursuivre ses études jusqu'à l'université et devenir avocat. Ça, c'est magnifique. C'est un impact gigantesque. Et puis, j'ai pas eu le temps de rajouter les images, mais même ici en Suisse, Adra est connue. Je sais que si vous parlez à vos bénéficiaires du repas de dimanche, ils vous connaissent. Très bien. Mais la semaine passée, on a eu une expérience très intéressante à Cressier. Comme vous le savez, Cressier a été inondé. Et vous pouvez lire cette expérience dans le Adventist Magazine qui est sorti cette semaine. Cressier a été inondé. J'y suis allée avec ma famille et c'est déplorable. C'est triste, on ne s'imagine pas qu'une chose pareille peut arriver ici en Suisse. De voir des voitures prises dans la boue, complètement renversées, cabossées, les caves remplies de boue. Mon mari nous aidait et il a eu de la boue jusqu'à la poitrine. Et voir ces gens dans cette détresse, c'est vrai que les assurances sont là, les pompiers, l'armée est venue, mais c'est quand même triste. Et là-bas, nous avons rencontré une dame dans une maison. On est venu spontanément lui offrir de l'aide. Puis elle a vu qu'on était uniformisés, Adra, les t-shirts Adra. Puis elle a regardé, puis elle a dit, mais attendez, vous êtes de Adra. Mais moi, chaque année, je fais du tricot. L'année passée, j'ai fait 150 bonnets pour Noël dans un carton. Je vous ai envoyé ça. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez m'aider dans ma maison. C'est fantastique. Adra est connue là où elle est active. Ça, ce sont juste quelques exemples que nous avons. Des exemples qui démontrent que nous, comme adventistes, nous devons prêcher notre message d'une façon pour qu'il soit compris. Et nous avons de très bons outils pour cela. Vous savez, Adra réalise tous ses projets à l'international, à l'étranger. Mais ici en Suisse, malheureusement, nous avons plus de 735 000 personnes qui sont touchées par la pauvreté en termes de revenus. Et ces chiffres-là datent de 2019, avant la pandémie. Vous pouvez imaginer quels sont les chiffres aujourd'hui. Vous savez, Jésus nous dit, dans Matthieu 5, 14 à 16, il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et si vous me permettez, moi je dirais que nous sommes la lumière qui éclaire la Suisse. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si notre lumière brille, l'attention des autorités sera attirée sur nous. L'attention des gens sera attirée sur nous. Les gens nous poseront des questions. Les études bibliques viendront toutes seules. Les campagnes d'évangélisation auront un sens. Et lorsque tout ceci aura été fait, l'évangile pourra être prêché avec des mots. Car alors, ces mots tomberont dans un terrain fertile. Mais attention, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne vous incite pas à vous livrer au prosélytisme. Nous devons aider les gens parce qu'ils sont dans le besoin. Un point, c'est tout. Parce que la création de Dieu souffre. Et nous devons aider ces gens parce que nous voulons servir l'humanité pour que chaque humain puisse vivre selon les désirs de Dieu. Donc ne voyons pas les actions humanitaires et sociales simplement comme un moyen vers une fin. Engageons-nous dans l'humanitaire tout simplement parce que c'est une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Le travail humanitaire et social est un fruit de l'Évangile. John Stott le formule de cette façon. C'est vrai, l'Évangile manque de visibilité si nous le prêchons simplement par des mots. Et il manque de crédibilité si nous qui le prêchons nous intéressons seulement aux âmes et n'avons aucun souci du bien-être des corps des personnes. Pourtant, la raison pour notre acceptation d'une responsabilité sociale n'est pas essentiellement pour donner une visibilité à l'Évangile ou une crédibilité dont il manquerait autrement, mais simplement la compassion. L'amour n'a aucun besoin de se justifier. Il s'exprime simplement dans le service où qu'il voit le besoin. Mais là, maintenant, une question s'impose. Si l'amour de Dieu est uniquement visible pour certaines personnes à travers des actions humanitaires et sociales, et si nous engager dans un ministère social, un ministère de compassion, fait partie de l'Évangile, pourquoi est-ce que les chrétiens, au fil de l'histoire, ont eu la tendance de négliger ou d'ignorer leur responsabilité sociale? Mike Ankowski nous partage une expérience ici. Il s'est aussi posé un peu la question. Et il a décidé de vivre comme un sans-abri avec un de ses collègues pendant un an. Vous pouvez lire son livre, il l'a publié en anglais, et puis si vous cherchez sur Internet, il y a des vidéos aussi qui résument un peu son expérience. Et puis, il y a une histoire qu'il a vécue. Il avait passé la nuit devant une église, sur les marches de l'église, avec son ami. Puis le lendemain matin, ils se sont réveillés et les membres de l'église arrivaient pour leur service de culte. Alors c'est un peu gênant, il y a des gens qui sont installés sur les marches de l'église, donc il faut les contourner, les enjamber, mais les membres le faisaient en silence, en les ignorant totalement. Et puis, à un moment donné, Mike avait réussi à identifier un des anciens, et s'est approché de l'ancien, et puis il a expliqué sa situation, il a expliqué, voilà, nous on vit dans la rue, on a passé la nuit ici, on n'a rien mangé... Voilà, est-ce que vous pourriez nous aider? Et la réponse qu'il a reçue de cet ancien a été que, vous comprenez, nous sommes ici pour louer Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Mais que Dieu vous bénisse. Stéphane Lozay, il nous propose plusieurs raisons pour lesquelles l'aspect social de l'Évangile a été un peu oublié. Stéphane Lozay fait partie de l'Alliance évangélique française. Et la première raison qu'il évoque, c'est la lutte contre le libéralisme théologique et la nécessité de défendre un christianisme biblique et historique, faisant porter tous les efforts sur les points essentiels de la doctrine. La deuxième raison serait une réaction à ce qu'on appelle l'évangile social, qui s'oppose à l'évangile du salut. Selon cet argument, notre priorité est le salut de l'âme, et non pas une transformation de la vie sur terre pour que les gens y soient bien physiquement. La troisième raison est que, puisque le monde court à sa perte, et seulement la seconde venue du Christ va changer quelque chose, alors pourquoi bon tenter quoi que ce soit? Ça ne sert à rien puisque tout est voué à disparaître. Alors c'est vrai que nous n'arriverons jamais à faire un paradis sur terre. Et c'est vrai aussi que la mission de l'Église a plusieurs aspects. Mais il faut qu'on se rende compte que la Bible nous appelle très clairement à nous engager en faveur de notre prochain, pour son bien-être physique et non seulement pour son bien-être spirituel. Imaginons un peu si ce matin, je vous demandais de prendre votre Bible et de découper chaque verset qui parle de pauvreté. Alors, ne le faites pas, vous aurez une Bible en lambeaux. Il y a plus de 2000 versets qui parlent de pauvreté. Et oui, c'est vrai, certains versets parlent de pauvreté spirituelle, mais la majorité traite la pauvreté matérielle. Alors, je vous invite, je vous propose d'arrêter de lire la Bible uniquement avec les lunettes du bien-être. Laissons-nous interpeller par les textes qui parlent de la pauvreté et de la richesse, sans tout spiritualiser systématiquement. En tant qu'adventiste, nous faisons partie d'une église qui reconnaît officiellement qu'elle a aussi un ministère social à remplir. Et une déclaration a été votée en 2010 par la Conférence générale. Je vais vous lire la deuxième partie de la déclaration qui dit que travailler à la réduction de la pauvreté et de la faim signifie plus que de montrer de la sympathie pour les pauvres. Il s'agit de plaider pour une politique publique qui offre justice et équité aux pauvres, pour leur autonomisation et leurs droits humains. Cela signifie parrainer et participer à des programmes qui s'attaquent aux causes de la pauvreté et de la faim, en aidant les gens à se bâtir une vie durable. Et puis, n'oublions pas ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 25. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et c'est intéressant de noter que toutes ces choses-là, eh bien, Jésus les a vécues. Il les a vécues sur la croix. Jésus a eu faim, il a eu soif. Il sait ce que c'est que d'être étranger. Il était nu. Il savait ce que c'est d'être malade. Il connaissait le sentiment d'être en prison. Jésus peut comprendre notre souffrance. Il peut comprendre la souffrance des gens de ce monde. Il a vécu cette souffrance. Et quand nous vivons une situation pénible, eh ben, nous pouvons nous identifier à ceux qui vivent la même situation. Ben, Jésus, c'est pareil. Quand nous souffrons spirituellement, physiquement, émotionnellement, il souffre aussi, parce qu'il l'a déjà vécu. Et ce qu'il nous dit en Matthieu 25, c'est tout ce que nous faisons dans ce monde pour soulager la douleur de ceux qui souffrent, qui soulage aussi ses souffrances à lui. Rappelez-vous, il l'a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus nous donne une mission. Excusez-moi. Jésus nous donne une mission ici dans l'histoire du bon samaritain. Jésus est le bon samaritain et nous, nous sommes l'hôte à qui il a confié l'homme blessé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est dans Luc 10, verset 35. Il nous le rendra à son retour. Il nous le rend même avant son retour. Il y a une expérience qui a été faite et qui démontre cela. Elle parle de l'effet Mère Teresa. Le docteur McClelland a fait une étude. Il a pris deux groupes. Le premier groupe, il leur a fait voir un film, Le pouvoir de l'axe. Et c'est un film qui expose les agissements d'Adolf Hitler. Et puis le deuxième groupe, ils ont regardé un film qui montrait les actions de Mère Teresa. À la fin d'avoir, quand ils ont terminé de voir les deux films, il a fait des prélèvements. Et puis, il a pu voir que le taux d'immunoglobine A sécrétoire était différent dans chacun des deux groupes. Ceux qui avaient vu le film sur Mère Teresa avaient produit plus d'immunoglobine. Et l'immunoglobine, elle aide dans les activités du système immunitaire chez l'humain. Donc c'est prouvé scientifiquement que faire du bien, eh bien, il y a même des réactions chimiques dans notre corps. Et c'est une des récompenses que Dieu nous donne. Faire du bien aux autres nous fait du bien à nous aussi. Et vous voyez ici sur la photo, le groupe de mamans, lors de la remise des diplômes, à la fin du cours d'alphabétisation. Elles étaient vraiment enchantées, heureuses de montrer ce qu'elles pouvaient faire. Vous savez, partout maintenant, tout le monde a des smartphones. Partout. Et ces mamans en avaient aussi. Mais comment pouvez-vous utiliser votre téléphone si vous ne savez pas lire les numéros? Vous ne pouvez pas composer un numéro. Vous ne pouvez pas identifier un appel. Vous avez besoin de demander à quelqu'un, s'il te plaît, j'ai besoin de parler à ma fille. Peux-tu faire le numéro pour moi? On est complètement dépendant des autres. Et bien ces mamans-là, à la remise des diplômes, elles étaient fières de me montrer ce qu'elles avaient appris. Elles pouvaient signer leur nom, elles pouvaient lire, elles pouvaient faire des récitations. Et puis, elles pouvaient utiliser leur téléphone. Et souvent, on me demandait, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. C'est juste fantastique de pouvoir vivre ce genre de choses. Et je suis sûre qu'ici, dans cette église, vous vivez des expériences merveilleuses aussi, avec l'action d'Adra de cette église. Alors moi, je vous invite à vous engager. Vous pouvez soutenir les actions de votre église. Vous le faites déjà. Si vous avez encore du temps, si vous avez encore l'envie, vous pouvez vous approcher de Xavier et voir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. Vous pouvez aussi soutenir les actions de Adra dans votre église locale avec des dons ou Adra Suisse aussi avec des dons. Et puis, vous pouvez divulguer les activités d'Adra. Ça, c'est juste quelques exemples. Vous pouvez faire beaucoup plus et je suis sûre que Dieu vous montrera exactement ce qu'il attend de vous et comment vous pouvez œuvrer envers votre prochain. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions partager avec les autres cette justice que Dieu donne, que nous puissions avoir de la compassion envers notre prochain et que nous puissions partager son amour.